Nous sommes le lundi 22 janvier 2018 et c'est une nouvelle semaine qui débute sous la pluie et le froid et même le vent. Bref, on n'en peut plus. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que la revue de presse JV s'engage à vous réchauffer le cœur durant 15-20 minutes à peu près. Allez, c'est parti. Bienvenue à toutes et tous dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo. Bienvenue pour cette nouvelle revue de presse JV. Moi, c'est Bruno Roca. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que le moral n'est pas trop dans les chaussettes. Mais pour vous donner panache et robustesse, je vous ai concocté un joli programme ce matin. Et sans plus tarder, je vous propose tout simplement d'attaquer avec les premières news. La distribution de la presse papier au bord du naufrage. C'est Canard PC, à travers la plume d'Yvan Le Fou, qui nous dit ça. Il nous explique que depuis quelques mois, le principal acteur de la distribution de la presse papier, Prestalis, a de très gros problèmes financiers. Pour assurer sa propre survie, Prestalis a décidé le 6 décembre dernier de prendre des mesures radicales qui menacent directement la survie des petits magazines, Canard PC compris. Son rôle, nous expliquons, est d'acheminer des centaines de magazines et la totalité des quotidiens nationaux dans tous les points de vente. Elle encaisse les ventes et nous redistribue les revenus, gardant au passage une importante commission pour se rémunérer. De l'ordre de 40% en ce qui nous concerne, nous dit Yvan Le Fou. Le 6 décembre 2017, visiblement à court de liquidités, Prestalis nous a annoncé qu'en plus de cette commission, elle retiendrait d'autorité 25% des sommes qu'elle doit à tous les éditeurs sur les mois de décembre 2017 et janvier 2018. Sauf peut-être pour quelques géants de la presse, être privé du jour au lendemain d'un quart de son chiffre d'affaires est un coup très dur. Cela crée un déséquilibre extrêmement difficile à absorber et beaucoup de petits titres risquent de ne pas s'en relever. L'article poursuit en nous expliquant que le système de distribution et de vente des journaux est donc rentré dans une situation critique. Au bout de la chaîne, depuis 5 ans, 800 points de vente disparaissent en moyenne chaque année parce que les vendeurs de journaux ne sont tout simplement pas assez rémunérés. Au milieu, l'activité logistique ponctionne beaucoup de valeur et semble malgré tout au bord de la faillite. Et en amont, les éditeurs qui luttaient déjà pour conserver une activité rentable se voient amputés brutalement de leur chiffre d'affaires. Nous voyons bien, nous dit Yvan Le Fou, qu'une remise en cause générale des conditions de commercialisation des journaux et des magazines se prépare. Et déjà, cette première décision prise entre puissants sans aucun égard pour la survie des plus faibles ne nous inspire aucune confiance pour la suite. Elle nous force même à une conclusion. Dans sa forme actuelle, notre existence va probablement être menacée au cours de l'année 2018. Et oui, vous avez bien entendu, c'est assez dramatique. Un peu plus loin, le papy nous dit qu'au moment où nous publions les premiers résultats d'une enquête ambitieuse et inédite, donc là, Yvan Le Fou fait bien sûr référence à l'enquête sur Quantic Dream, et dit-il, où nous préparons une nouvelle formule prévue depuis longue date, nous restons déterminés. Une chose est déjà certaine, notre avenir ne pourra pas s'écrire sans l'aide de nos lecteurs. Lisez et achetez nos journaux, faites circuler l'envie d'une presse indépendante de qualité et restez à l'écoute, nous ferons bientôt appel à vous pour nous aider à réinventer des magazines et un groupe de presse capable de survivre à la crise qui s'annonce. Voilà donc des paroles, des mots très tristes quand on connaît la qualité, qu'on aime ou pas, la qualité de Canard PC, la façon... avec laquelle le magazine est fait vraiment avec ses tripes. Donc, lire ça, c'est vraiment très triste. Je vous avoue que je n'ai pas toujours acheté régulièrement Canard PC, selon les envies, selon les moyens. Mais si les moyens me le permettent, ça me donne envie d'acheter des numéros beaucoup plus régulièrement. Ce serait vraiment dommage que ce magazine disparaisse. Ce serait, je pense, un coup dur pour la presse spécialisée en général, pour la presse jeux vidéo en particulier, pour la presse tout court d'ailleurs, si le magazine s'arrêtait. Donc écoutez, restons vigilants, moi je n'étais pas au courant de ces soucis-là, et pourtant Dieu sait que je surveille ce qui se passe un petit peu, même beaucoup dans le milieu de la presse, je n'étais pas au courant de ce problème-là, donc c'est très bien que Yvan Le Fou relaie cet article. Il est en accès libre sur le site Canard PC. Ce que vous pouvez faire, c'est partager, vous tapez Yvan Le Fou Canard PC sur Twitter, vous allez trouver rapidement, et je l'ai déjà retweeté de toute façon à plusieurs reprises sur le fil Twitter de l'émission. Retweeter son message, c'est extrêmement important, il faut les soutenir un maximum, quoi qu'il arrive. Les Edge Awards 2017, ça y est, les grands gagnants, nous avons la liste. Je me suis procuré donc le dernier Edge, celui du mois de février. Alors Edge, le célèbre magazine anglais bien sûr, dont je vous avais déjà traduit les meilleurs passages d'une superbe enquête consacrée à l'état de l'industrie du jeu vidéo en Italie. Ça, je vous en avais parlé dans l'épisode du samedi pour les tipeurs. Là, je vais vous parler des Edge Awards 2017. Avant de vous donner les grands gagnants par catégorie, il faut savoir que Edge, je pense comme beaucoup de monde, beaucoup d'observateurs et beaucoup de joueurs, n'est-ce pas, a apprécié à sa juste valeur cette année 2017 qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Une année, nous dit Edge, dont la rédaction se souviendra, dont tout le monde se souviendra dans quelques années avec la même nostalgie que les années 1998 ou 2004. Un très très bon cru, c'est vrai que moi-même, je me dis que quand même une année où est sorti Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, Nier Automata et R7, j'en oublie plein, Persona 5, enfin bon, la liste est très longue, c'est quand même une année, une des plus belles, si ce n'est peut-être la plus belle. On va commencer avec la catégorie le jeu Nintendo de l'année, parce qu'il y a carrément une catégorie jeu de Nintendo de l'année. Donc jeu Nintendo de l'année, c'est Super Mario Odyssey qui remporte ce prix. Le jeu PC de l'année, c'est PUBG, PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, qu'on ne présente plus. Le jeu en réalité virtuelle de l'année, c'est Polybius, qui tourne sur PlayStation VR, qui remporte le prix. Le meilleur design visuel de l'année, c'est ARMS sur Switch. Le meilleur design audio, c'est Zelda Breath of the Wild. Le meilleur scénario, c'est What Remains of Edith Finch. L'hardware de l'année, la meilleure machine de l'année, c'est la Nintendo Switch, sans surprise. Le jeu en ligne de l'année, c'est Overwatch. L'éditeur de l'année, Nintendo. Le studio de l'année, devinez quoi ? Nintendo, voilà. De toute façon, 2017, c'est l'année Nintendo. Ça, on l'a répété plusieurs fois dans cette émission, c'est incontestable. Et le jeu de l'année, celui qui remporte le grand prix, c'est Zelda Breath of the Wild. Là encore, sans surprise. Edge nous dit « Bonté divine, par où commencer ?» C'est, à bien y penser, la question que la plupart des joueurs se poseront alors que Link s'éveille et marche vers la plus grande et étourdissante Hyrule disponible à ce jour. Edge nous dit que c'est formidable, écrasant et totalement libérateur. Rien n'est interdit. Un retour à l'esprit qu'il y avait dans le jeu original sur Famicom, sur NES, que l'on retrouve ici de fort belle manière, complètement transcendé. Il nous précise également ce que vous savez déjà, bien sûr, que c'est un Zelda qui a pris énormément de petites astuces à la concurrence en ce qui concerne la confection de ce monde ouvert, mais bien sûr il a aussi créé ses propres règles, amené ses innovations en établissant tout simplement une nouvelle norme, une voie à suivre pour le reste de la production. Parfois, nous dit Edge, c'est un jeu de survie pure, parfois un jeu d'énigmes avec une myriade de solutions dont certaines n'ont probablement pas encore été découvertes. C'est un terrain de jeu, un jeu de chimie où les capacités de Link peuvent être combinées à l'infini. Et différentes vidéos, d'ailleurs, nous rappellent ça constamment. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on trouve des manipulations, des astuces, des combinaisons, des skills de Link qui donnent des choses complètement folles. Je pense que les possibilités de ce jeu ne sont pas infinies. Mais enfin, je crois qu'on va encore en découvrir dans les 10 prochaines années, tellement c'est vertigineux, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, Zelda Breath of the Wild est le grand jeu de l'année 2017 pour Edge. J'espère que cette retranscription vous a plu, et donc on peut passer à la suite de cette émission. Il y a plusieurs jours de cela, je vous avais soumis un sondage, concernant la chaîne ES1, qui est née récemment, une chaîne 100% dédiée à l'e-sport, et je vous avais posé cette question. Est-ce que cette chaîne est susceptible de vous intéresser en tant que spectateur ? J'avais posté donc ce sondage sur Twitter et sur le Discord. Sur Twitter, vous avez été 44% à me dire que oui, cette chaîne peut vous intéresser en tant que spectateur, 56% à m'avoir dit non, que cela ne vous intéressait pas. Alors, une majorité quand même de personnes qui n'est pas trop intéressée par ES1. Maintenant, il faut voir si dans les faits, cette chaîne va trouver son public. Sur le Discord, alors c'était au moment où le Discord se lançait, donc il n'y a pas beaucoup de votants. 6 votants ont répondu oui, hein, qu'ils étaient intéressés, et 22 votants ont répondu non, ça ne les intéressait pas. Est-ce que, entre-temps, depuis la publication de ce sondage, vous avez pu découvrir, en tout cas pour les abonnés Orange hein, qui m'écoutent, est-ce que vous avez pu découvrir cette chaîne? Est-ce que cela vous a plu? Est-ce que si l'on n'est pas forcément intéressé par le domaine de l'e-sport, est-ce que malgré tout, il y a des programmes qui ont trouvé grâce à vos yeux? N'hésitez pas à m'en parler hein, sur le Twitter, le Discord, le Facebook, bref, comme vous voulez. Je suis quand même très curieux d'avoir votre ressenti vis-à-vis de cette nouvelle chaîne. Une rumeur de plus en plus persistante nous dit que Cyberpunk 2077 se montrerait lors de l'E3 2018. Jeuxvideo.com nous en dit un peu plus sur le sujet, puisqu'il nous dit que selon les informations du média Gris Online, un CD Projekt Red serait présent à l'E3 en juin prochain pour présenter son prochain blockbuster Cyberpunk 2077. Je rappelle que CD Projekt, c'est le studio derrière l'immense, le fabuleux Witcher 3. Qui est-ce qui nous dit ça? Oui, c'est ChewieFR hein, qui nous dit ça sur jeuxvideo.com. Il poursuit donc en nous expliquant que, ayant quelques facilités à suivre l'affaire de près, le site spécialisé polonais, donc Gris Online, hein, rapporte que selon deux de ses sources, l'entreprise varsovienne fera le déplacement à Los Angeles début juin pour enfin nous montrer davantage son RPG futuriste. Les sources de Gris Online affirment avoir entendu qu'une bande-annonce sera montrée lors d'une des conférences d'ouverture de l'événement, hein, à la star de The Witcher 3 en 2013, et que du gameplay sera présenté aux professionnels sur place. Alors Chewie nous rappelle que voilà 5 ans hein, que le jeu tant attendu s'est montré pour la dernière fois avec son alléchant teaser. C'est vrai que ce teaser claquait méchamment. Tout récemment, nous dit-on, son compte Twitter officiel donnait un signe de vie annonciateur. C'est vrai que le compte Twitter a commencé à bouger un petit peu, ce qui a eu pour conséquence hein, d'affoler un petit peu tous les fans de Witcher 3 et les gamers qui attendent hein, ce Cyberpunk 2077. Et donc, jeuxvideo.com conclut en nous disant que si les pincettes d'usage hein, sont naturellement de rigueur, Cyberpunk 2077 pourrait enfin combler notre faim cette année. Est-ce que vous l'attendez, chères auditrices, chers auditeurs, ce Cyberpunk 2077? Personnellement, ayant aimé, mais alors vraiment adoré The Witcher 3, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce tout nouveau projet que l'on attend maintenant effectivement depuis bien longtemps. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une émission qui date d'il y a quelques mois. Cette émission, qui existe toujours, hein, bien sûr, s'appelle Les Chemins de la Philosophie. C'est animé par Adèle Van Rett sur France Culture. Et une émission qui existe toujours, hein, bien évidemment, mais qui, fin septembre, s'est attelée à la philosophie des jeux vidéo sur une série de 4 épisodes de 50 minutes à peu près. J'ai découvert donc l'émission ce week-end, mais j'ai tellement aimé cette approche multiple hein, et rapprochant les textes classiques, la philosophie à l'univers du jeu vidéo. Je me suis vraiment régalé à l'écoute de cette émission, qui est toujours disponible en replay. Je vous mettrai le lien dans la description de l'émission. Donc je vous invite très 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 fortement à aller écouter ça. Et durant cette série en 4 épisodes, des intervenants discutent hein, avec Adèle Van Rett. Alors dans le premier épisode, nous avons Jean Z, hein, qui est invité, Jean Z, un journaliste à France Info. Dans le deuxième, Mathieu Triclot, maître de conférence en philosophie à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Dans la troisième émission, nous avons Olivier Nani-Pierry, hein, qui est maître de conférence lui aussi, mais à l'Université de Toulon. Et enfin, dans le quatrième volet de cette série philosophie des jeux vidéo, c'est Alexis Blanchet, maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle. J'aimerais vous faire écouter quelques passages du premier épisode hein, qui est centré sur la création et l'histoire du jeu vidéo avec un invité donc Jean Z. Trois morceaux donc choisis hein, du journaliste de France Info avec Adèle Van Rett avec une ode hein, à journée pour le troisième extrait. Allez, on écoute ça, c'est parti.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel est le point commun entre le rock, les mangas et les jeux vidéo? Tous ont été accusés de corrompre une jeunesse déjà vacillante et de troubler l'ordre public. Tous, mais depuis toujours. Pensez aux feuilletons au XIXe siècle qui provoquaient un engouement similaire à celui des séries télé aujourd'hui. Et Platon, oui, Platon, qui nous raconte comment l'invention de l'écriture fut reçue par le roi d'Égypte comme l'annonce d'une perte irréversible du savoir et l'invitation à une passivité dangereuse chez les étudiants. avançant les mêmes raisons que brandissent aujourd'hui les détracteurs des jeux vidéo. De quoi faire sourire. Allez, puisque c'était toujours mieux avant, avançons gaiement vers les gamers, en route sur les chemins de la philosophie. Alors on a, quand on joue à ce jeu Pong, hein, un petit signal à côté qui écrit, voilà, le but c'est d'éviter de rater la balle pour obtenir le meilleur score. Mm-hmm. Le but du jeu est clair, tout le monde peut y jouer, on a une balle, deux joueurs qui contrôlent deux barres ou deux raquettes avec un bouton rotatif, un filet, une sorte de tennis de table vu de dessus où chaque joueur s'affronte dans le but de garder la balle dans le terrain alors que sa vitesse augmente constamment. Pong est né, et tous ceux qui se souviennent de leurs premiers jeux vidéo qui ont plus de 30 ou 40 ans, se souviennent de Pong, Jean Z.
Oui, effectivement, Pong 72, c'est le premier Big Bang, hein, du jeu vidéo. Et c'est marrant parce que le son, Nolan Bushnell, qui est l'initiateur d'Atari, hein, le président d'Atari, a demandé à son ingénieur à l'Alcorn de créer un son de stade, hein, avec des milliers de spectateurs. Il fallait que ça hurle, il fallait qu'on entende le bruit des raquettes. Et vous voyez ce que ça a donné. Bon, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus mesuré, on va dire, et modeste. Ce jeu crée pour la première fois un gameplay absolument fascinant et absolument joyeux à jouer et qui va séduire la planète entière, enfin d'abord les États-Unis et puis toute la planète. C'est pour ça que ce Pong est le premier Big Bang du jeu vidéo.
Et c'est tout de suite une interaction, c'est-à-dire que dès le premier jeu vidéo, il s'agit de jouer contre quelqu'un d'autre. Il y a une rencontre ou en tout cas une forme de relation qui s'installe avec une altérité dès le début.
Exactement, et puis alors soit c'est le joueur, soit c'est l'ordinateur, mais effectivement il y a un face-à-face, ça commence, l'histoire du jeu vidéo commence et débute par un face-à-face, mais c'est surtout la découverte d'une interaction, c'est-à-dire que ça n'existe pas, on est habitué au spectacle passif, on est habitué à la littérature, on est habitué au cinéma, mais on n'est pas habitué à être acteur de son propre divertissement.
Ça c'est fondamental, Jean-Denis.
Ah mais c'est
complètement... Là c'est ce qui change tout,
c'est-à-dire... Total révolution, c'est-à-dire que c'est ça le rock'n'roll, la notion de rock'n'roll dans le jeu vidéo. C'est pour ça que ça va mettre, on va dire, des parents dans la panade,
dans l'embarras,
parce qu'il va y avoir une vraie confrontation de générations. Là, les jeunes gens vont prendre le jeu vidéo littéralement tout de suite en main. Et voilà, c'est un voleur de temps à l'image de la littérature qui n'est pas interactive.
Dans quelle mesure est-ce que c'est du temps perdu à partir du moment où l'expérience que l'on vit en jouant au jeu vidéo peut être assez similaire d'une expérience de lecture. Vous parlez de littérature, simplement dans le jeu vidéo, en plus nous sommes actifs.
Oui, effectivement nous sommes actifs partie prenante de ces parties, justement, eh bien, on ne voit pas le temps passer. Je reviens à cette notion de gameplay. Plus ce gameplay, donne du plaisir, et plus le temps passe vite. Mais ceci dit, ça pourrait rejoindre le style en littérature. C'est-à-dire que plus le style est prenant, et vous ne voyez pas les nuits non plus. Ce qui était très étrange avec ça, moi, j'étais accro à la littérature quand j'étais adolescent, et je dévorais des livres et des livres et des livres. Mais personne ne m'a jamais reproché d'être accro ou d'être addict à la littérature. Or, je suis un peu plus tombé dans le jeu vidéo et où j'ai passé des heures parce que les jeux exigent des heures parfois et des dizaines d'heures pour les finir. Eh bien, ces reproches-là sont arrivés. En tout cas, le regard est différent. Et on voit bien que quand on change de médium, eh bien, on va dire, on change de regard. C'est un voyage contemplatif cette journée. C'est l'un des plus beaux voyages du jeu vidéo récemment. C'est-à-dire qu'il propose un chemin vers la félicité.
Vers la félicité, carrément.
Oui, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas au départ, on arrive, on est au milieu d'un désert et puis c'est tout. Donc on tourne la tête partout, 360 degrés. Mais où va-t-on ? Donc on doit trouver son chemin. Ce n'est qu'une affaire de chemin. Et finalement, on comprend au fur et à mesure du chemin là où il nous amène. Donc on monte, c'est une longue montée, une longue montée en puissance également, où on va rencontrer d'autres joueurs, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on va voir un peu un acolyte, un double, et on se dit, tiens, est-ce qu'il est... On ne le sait pas. Est-ce qu'il est géré par l'ordinateur ou est-ce que c'est un être vivant qui est derrière ce personnage-là ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend les vieux réflexes du jeu vidéo ? Est-ce qu'on prend l'Iliade et sa lance d'airain et on va le planter ? Ou on lui parle ? Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'est vraiment... C'est très très beau. Et au fur et à mesure, ça dure 2 heures, le temps d'un film. Et au fur et à mesure, on commence à se poser des questions. Alors on peut penser à ses impôts, à sa vie, etc. Enfin... Il y a des zones d'ennui parce que l'ennui fait que d'autres questions viennent émerger à l'esprit. C'est très très étonnant de journée. C'est très très beau. C'est vraiment un voyage unique qui, je pense, là pour le coup, ne renvoie qu'au joueur. C'est-à-dire qu'il va il va y mettre de lui-même. Il sera dans l'obligation d'y mettre de lui-même.
D'autant que le joueur est dans l'impossibilité de choisir son partenaire. La personne qu'il rencontre, il ne le sait pas. C'est comme si c'est l'ordinateur, si c'est quelqu'un, un autre joueur, il n'apprend son identité qu'à la fin.
Exactement.
Donc il se retrouve en situation de rencontrer un inconnu comme dans la rue.
C'est un peu comme Ulysse qui débarque sur une île inconnue et qui se dit, mais qu'est-ce qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ce qui va m'arriver va être joyeux ou est-ce que ça va être terrible? Et ça, on ne le sait pas qu'en début de journée. On ne le sait pas parce qu'on n'est absolument pas habitué à ce genre de propos dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, désormais, on est un peu plus habitué tout de même. Il y a toute une frange de jeux vidéo qui sont beaucoup plus contemplatifs, qui posent des questions sur la famille, sur la mort, sur la maladie. Il y a un père de famille qui a fait un très joli jeu sur la mort de son enfant atteint d'un cancer et qui essaie de à travers le jeu, mais comprenez pas le jeu ludique, le jeu d'enfant, cette mort et ce deuil, comment il est passé au travers. Et là, on a tout à coup une espèce de transmission d'expérience par l'interactivité vraiment bluffante.
N'hésitez pas donc à aller découvrir cette série d'émissions. J'ai eu vraiment donc vraiment le plaisir de découvrir tout cela. Et d'ailleurs, je n'ai qu'une envie, c'est de m'écouter tous les replays, en tout cas ceux que j'aurai le temps de savourer, car je trouve cette émission passionnante et très curieuse, très respectueuse des sujets qu'elle aborde, et avec une intelligence, un recul et je dirais une finesse d'analyse assez rare finalement dans le paysage audiovisuel. Peut-être plus rare dans le côté visuel qu'audio même. Mais bon, là c'est un autre débat. Donc un grand bravo à Adèle Van Retz pour cette émission. Un grand bravo à Jean Z aussi qui amène des angles de réflexion mais vraiment très 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 pertinents. Et donc n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes. Alors je rappelle la thématique de ces épisodes. Donc cet épisode 1 dont je vous ai extrait quelques passages durent donc 58 minutes et se nomment donc Philosophie des jeux vidéo de l'Antiquité à nos jours. La deuxième partie qui dure 59 minutes se nomme À quoi tu joues. Le troisième épisode, c'est du réel au virtuel, 59 minutes également. Et le quatrième épisode, je vous le donne en mille, 59 minutes, dont la thématique centrale est l'histoire dont vous êtes le héros. Donc faussez écouter ça, vous ferez du bien à vos oreilles ainsi qu'à votre cerveau. Et voilà, c'est terminé pour la première émission de la semaine. Mais vous le savez, on se retrouve demain matin, même heure, même flux, même chaîne, même portail. Bref, vous ne le savez que trop bien. Si vous avez loupé une émission, une édition, quelle qu'elle soit, la revue de presse JV est dispo H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, Podcloud, Deezer, YouTube. Bref, je suis partout. N'oubliez pas la grande revue de presse JV, l'émission de 3 heures avec des tipeurs à mes côtés où nous faisons part de nos attentes pour 2018 en matière de jeux vidéo. Et c'est toujours disponible sur ces flux-là. Pas mal de replays aussi qui sont arrivés ce week-end. Si vous avez loupé des sujets la semaine dernière et que vous avez envie de les écouter comme ça un petit peu en standalone, il y a des replays. Il y a notamment celui sur l'affaire Quantic Dream, un autre sur mes réactions concernant l'annonce de Nintendo Labo, la rubrique 100% Japon de mercredi dernier. Tout ça, indépendamment des éditions quotidiennes, vous pouvez retrouver ça facilement. Le Tipeee, alors les tipeurs, n'oubliez pas, désormais l'épisode du samedi est à retrouver, le lien est à retrouver directement sur la page Tipeee. Une news est dédiée à chaque épisode du samedi avec l'historique de toutes les précédentes éditions du samedi avec toutes les revues de presse rétro qui sont indiquées. Donc comme ça vous pouvez réécouter ou découvrir pour les derniers tipeurs arrivés les éditions précédentes, toutes les revues de presse rétro précédente. Donc je rappelle que la revue de presse rétro, c'est une rubrique exclusive à l'édition inédite du samedi. Celle de ce samedi là qui vient de passer était consacrée à l'accueil dans la presse française du premier Metal Gear Solid. Mais donc vous avez accès également aux précédentes où je parlais notamment de Bayonetta, d'Hideki Kamiya. Il y en a une sur l'accueil de Final Fantasy VI et 7 dans la presse française. Une autre revue de presse rétro consacrée à Super Mario 64. Une autre sur les Edge Awards 2007, sur les lancements des consoles, bref, pas mal de sujets comme ça, plus les news et autres bonnes petites choses à se mettre dans l'oreille dans ces éditions du samedi. Donc tout ça, c'est à retrouver sur la page Tipeee directement. Je pense que ça vous simplifie la vie, ça simplifie la vie des tipeurs et j'en suis très heureux, c'était le but. D'ailleurs, donc je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver, que j'ai un Tipeee dont le lien est dans la description de cet épisode, tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. J'ai une situation très complexe et effectivement, vos dons peuvent m'aider à améliorer la situation entourant la réalisation de cette émission et surtout assurer sa pérennité. N'hésitez pas à aller lire toutes mes explications sur le Tipeee. Je remercie les derniers tipeurs qui se sont inscrits, Guillaume, Emmanuel, Thalys, Xinili et Carnogd. Merci, merci à vous, merci à tous les autres tipeurs également, je citerai vos noms, vous le savez, au fil des jours dans l'émission. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour cette semaine qui recommence. Quant à moi, donc, je vous dis à demain pour une nouvelle édition fraîchement pêchée du matin. Allez, gros bisous, bye bye.